feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Leer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Plein Feu, aujourd'hui en compagnie de Soleyman Lagdim. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes délégué général aux droits de l'enfant, mais je vous propose de faire plus ample connaissance. Où avez-vous grandi ?
Alors, moi, je suis bruxellois d'origine. J'ai grandi à Bruxelles jusque 25 ans. Et puis, je me suis expatrié en région liégeoise. Donc, je suis liégeois d'adoption, mais bruxellois d'origine, voilà.
Et maintenant, vous vivez...
Alors, j'habite près de Warem, dans un petit village qui s'appelle Pousset, à Remicourt. Et donc, c'est en SB, en campagne.
Principauté de Liège.
Principauté de Liège, mais limitrophe avec la frontière linguistique.
C'est important, cette
Oui, parce qu'il y a quand même une influence flamande sur les alentours, oui.
Une ouverture à la culture de l'autre, peut-être.
Je crois que c'est important. C'est vrai qu'on a souvent tendance à regarder à 180 degrés en Belgique, alors qu'il faudrait regarder à 360 degrés. Parfois, il se passe de chouettes trucs de l'autre côté de la frontière linguistique.
Soleyman Lagdim, qu'imaginiez-vous faire comme métier quand vous seriez grand ? Est-ce que vous songiez déjà à ce métier de délégué général aux droits de l'enfant ? Saviez-vous d'abord si ça existait ?
Alors, quand j'étais petit, le métier n'existait pas, parce que l'institution a été créée dans les années 90. Mais j'avais deux passions dans la vie. La première, c'est que j'ai toujours aimé les mathématiques. Donc, je suis passionné d'astronomie. Donc, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me poussait dans cette direction-là. Et puis, j'avais aussi envie de pouvoir gagner ma vie honnêtement et en réalisant mon humanité. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment important. Et donc, très rapidement, je me suis orienté vers ce deuxième choix parce que j'avais vraiment envie d'aider l'autre, en fait. Et donc, progressivement, j'ai fait des études de criminologie. Et puis, j'ai travaillé dans le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse. Et puis, progressivement, voilà.
Et les étoiles n'auraient pas permis de travailler honnêtement ?
Si, bah, tous les métiers sont honnêtes. Mais je crois qu'on réalise en tout cas son humanité à travers l'autre. Et ce rapport à l'autre, il doit être positif. Parce que quand il est négatif, généralement, il nous fait du tort, à nous en premier, puis dans la relation à l'autre aussi. Donc pour moi, c'était d'aider, et d'aider en particulier les plus vulnérables de notre société, les plus fragilisés. Voilà, j'étais habité par ça.
Et quand vous imaginez aider les plus vulnérables, c'est que vous avez remarqué des manquements. Est-ce que c'était lié peut-être au quartier dans lequel vous évoluez, à ce que vous avez pu observer en étant plus jeune ?
Mais c'est vrai que moi, je viens d'une famille assez modeste. Hein, c'est presque une histoire classique pour quelqu'un qui est issu de l'immigration marocaine. Donc, mon papa arrive avec mes grands-parents en Belgique suite au contrat qui a été signé, dont on fête les 60 ans d'ailleurs. Enfin, on commémore les 60 ans cette année pour travailler dans les charbonnages et puis pour être ouvrier. Donc, mes parents sont illettrés à la base. On arrive en Belgique, donc milieu modeste, toujours une enfance très heureuse à titre personnel, mais autour de moi, malheureusement, c'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes devenir ce qu'ils n'avaient pas envie d'être. Je le dis souvent avec beaucoup d'amertume, mais moi, je connais plus de gens qui sont morts jeunes que de gens qui sont morts vieux. Et donc, j'ai toujours été surpris par ça, par ce déterminisme terrible. Je voyais des gens bien qui devenaient des personnes qui basculaient dans la délinquance ou parfois qui prenaient de la drogue ou dans les cas les plus dramatiques aussi, qui avaient des troubles d'ordre psychiatrique. Et j'avais pas envie de devenir ça. Et en même temps, j'étais un peu révolté contre ce déterminisme-là et j'avais envie de faire bouger les lignes. Donc oui, voilà, c'est peut-être né de là. Il y a toujours une part de biographie dans le métier qu'on choisit, je pense.
Et votre envie de faire bouger les lignes, elle se limitait à la Belgique ou vous aviez aussi des visées plus larges vers l'international ?
Initialement, c'était vraiment une envie de proximité. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça que je débute. Hein. Je travaille d'abord dans des services AMO, d'action en milieu ouvert. Je travaille dans les quartiers avec des jeunes en difficulté. J'ai travaillé dans l'hébergement avec des jeunes qui malheureusement ont été placés par un juge de la jeunesse ou par une autorité mandante parce qu'ils subissaient des négligences ou des situations de maltraitance importantes. Donc, c'était d'abord la proximité. Mais c'est vrai que dans mon cursus, j'ai d'abord fait criminaux et puis très vite les enjeux de coopération internationale m'ont intéressé aussi. Mais là, c'était plus à titre personnel. J'avais envie de comprendre comment au niveau international les choses se passaient, quelles étaient les grandes missions des grands organismes, etc. Et ça m'est très utile parce que dans le cadre de ma fonction actuelle, j'ai beaucoup de missions à l'international aussi. On l'ignore souvent, mais on est actif là-dessus. Donc finalement, ça m'aide beaucoup.
Soleyman Lagdim, vous êtes un ancien étudiant de l'Université libre de Bruxelles. Que pensez-vous de la polémique actuelle autour des lieux de prière ?
Je pense, de manière générale, parce qu'il y a plein d'autres thématiques qu'on pourrait balayer, mais je crois que c'est important de ne pas reconnaître une idéologie ou une philosophie, peu importe, mais il ne faut pas la méconnaître non plus. Et donc, moi, je ne suis pas pour reconnaître une religion en particulier en disant cette religion doit être au-dessus des autres, mais il ne faut pas méconnaître le fait religieux. Et le fait religieux, il existe, il y a toute une série de personnes qui sont habitées par ça. Et je vais juste dire à titre personnel, j'aime beaucoup la cohérence. Et donc, quand quelqu'un a une foi et qu'il l'exprime correctement, de manière respectueuse et que ça lui fait du bien, j'ai aucun souci avec ça. Ce que j'aime pas, c'est des gens qui disent A et puis disent Z en fonction de l'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux. Donc de manière générale, moi j'ai pas de souci avec le fait religieux. Voilà.
Et donc le fait qu'il y ait des lieux de culte, même dans une université dite...
Alors là, effectivement, c'est un peu plus touchy, parce qu'on connaît l'ADN de l'ULB, on sait que la laïcité est quelque chose de très 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 important. De mon époque, ça n'existait pas. J'ai presque envie de dire c'est de la popote interne à l'ULB. Moi, de l'extérieur, je regarde ça de manière personnelle et...
Quand vous dites que ça n'existait pas de votre temps, ouais, entre guillemets, comment est-ce que vous expliquez que les jeunes s'approprient peut-être plus le fait religieux maintenant ?
Alors, je ne sais pas s'ils s'approprient plus le fait religieux, parce que derrière les revendications, moi, je vois beaucoup d'identitaires. Je suis toujours d'ailleurs surpris par le manque de références canoniques ou le manque de références religieuses. C'est presque parfois du vide religieux que je vois en eux, pour reprendre l'expression de Carl Gustav Jung. Donc, j'ai l'impression que si on prend par exemple la question, on va dire, musulmane, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la revendication, qui est un islam qui parfois peut être un islam plus conquérant sur l'espace public. Et donc ça, voilà, je me dis, il faut plutôt agir sur les vraies causes qui touchent à ce mal-être-là. Et puis, bah, comme je vous disais, ceux qui sont cohérents avec leur foi, et, bah, moi, je n'ai vraiment pas de souci avec ça.
Mais ça veut dire qu'on pourrait en arriver à des replis plus communautaires.
Ah, je pense que le communautarisme est une réalité aujourd'hui qui nous touche. Et vous savez, pour combattre ce communautarisme, il faut aller vers plus d'équité, plus d'égalité. Aujourd'hui, si vous allez dans les quartiers pauvres, en région bruxelloise par exemple, les quartiers à haute densité de personnes issues de la diversité ont des indices socio-économiques très très faibles, ont les moins bonnes écoles, etc. etc. Donc c'est plutôt agir sur ces causes-là. Et en agissant sur ces causes-là, je suis quasi certain qu'on diminuera cette pression du communautarisme. Parce que le communautarisme est un réflexe naturel. Vous savez, quand l'État n'est plus présent à un endroit, c'est soit le religieux, soit la délinquance qui prend le relais. Et parfois, c'est les deux en même temps.
Et là, on parle de jeunes universitaires quand même.
Alors oui, là, il n'y a pas de frontières. Vous savez, si vous allez en Arabie Saoudite, vous verrez que le niveau d'éducation est très élevé. Ça n'empêche pas parfois d'avoir des idées rétrogrades.
Quand on voit la multiplication des lieux qui accueillent les jeunes, que ce soit des maisons de jeunes, quand on voit l'investissement aussi des éducateurs de rue qui font un travail formidable, on remarque qu'il y a quand même une grosse concentration dans les villes principalement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve finalement plus seul dans une ville où il y a plein de gens ou plus démunis qu'on ne peut l'être à la campagne, par exemple?
Alors, en fait, pour moi, il y a deux grandes zones de vulnérabilité. En fait, il y a des zones de vulnérabilité traditionnelles. Si vous allez dans les grands pôles urbains, bah forcément, il y a des endroits qui concentrent davantage ces vulnérabilités. Par exemple, vous allez en région liégeoise. Si vous suivez le bassin sidérurgique liégeois, vous allez trouver toutes ces poches de vulnérabilité parce qu'il y a un historique derrière. Donc, dans les grands pôles urbains, c'est facile à identifier. Pareil à Bruxelles, pareil sur Verviers, c'est le bassin lainier. Donc, il y a toujours une histoire qui précède. Par contre, ce que je peux vous dire, pour moi, les grands enjeux en termes de droits de l'enfant, c'est principalement dans les quartiers populaire des grandes villes et en milieu rural. Parce qu'on oublie souvent le milieu rural. Il y a un isolement social terrible et souvent un déficit de services qui existe là. Et donc, en réalité, si on veut réussir une aide sociale qui soit de qualité, il faut avoir une vraie programmation. Une vraie programmation qui tienne compte de tous ces indices-là, du nombre de jeunes, de l'indice d'accessibilité, de l'indice socio-économique. C'est toutes ces variables-là dont il faut tenir compte.
Ça veut dire que ça demande beaucoup de moyens.
Ah, ça demande des moyens. Alors, ça demande, dans certains secteurs, ça demande des moyens. Je pense que certains secteurs, il faut casser la tirelire, il n'y a rien à faire. Et puis, il y a d'autres endroits où, moi, ce que j'observe aussi, c'est souvent une dispersion de moyens. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une politique cohérente, on a un morcellement institutionnel qui est tel que chacun fonctionne en silo. Et finalement, on a presque du saupoudrage, mais qui ne donne pas de bons résultats, alors que s'il y avait un pilotage de politique publique qui soit beaucoup plus cohérent, honnêtement, je pense qu'on aurait de bons résultats. Et surtout, ce qu'on ne fait pas assez, c'est s'inspirer de faire le cadastre de toutes ces expériences probantes qui fonctionnent bien, parfois avec des moyens dérisoires, mais c'est en faire le cadastre et pérenniser ce qui fonctionne bien et avoir le courage de pas pérenniser ce qui ne fonctionne pas bien.
Trouver les bonnes inspirations.
Il me semble.
Vous avez expérimenté vous-même ce travail d'éducateur. Ça a été formateur pour la fonction que vous occupez aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Donc, toutes les expériences professionnelles que j'ai pu exercer auparavant m'aident énormément. M'aident énormément parce que j'ai eu la chance de travailler avec des jeunes et des familles très abîmées, de les accompagner au quotidien. J'ai eu aussi la chance d'être en résonance avec toute une série de secteurs, amis et partenaires de l'aide et de la protection de la jeunesse. Et donc, forcément, ça me permet de connaître d'être assez généraliste sur les niches des autres secteurs, tout en perfectionnant finalement cette expertise. Ouais. Non, ça a été d'une grande aide.
Et pourquoi aviez-vous envie de travailler auprès des jeunes et pas de personnes plus âgées ? Parce qu'en termes de précarité, oui, ça aurait pu être aussi...
Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça m'a directement beaucoup plus parlé. J'étais assez jeune, donc j'ai commencé tôt, hein, il y a plus de 20 ans que j'ai commencé. Et j'étais à peine plus âgé d'ailleurs que les jeunes dont je m'occupais. D'ailleurs, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont fait de belles carrières et qui s'en sont très bien sortis, heureusement, et ça fait très plaisir. Mais oui, je me sentais plus proche des jeunes à l'époque. Et puis finalement, c'est des métiers où vous êtes directement passionné et c'est des métiers où, vous savez, la première chose qu'on va chercher dans un travail, c'est la reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance, c'est le salaire ne suffit pas. Il faut de la reconnaissance, il faut du bien-être. Moi, j'ai eu cette grande chance, dès mes premières expériences, d'avoir énormément de reconnaissance, mais de la part des publics qu'on accompagnait, et ça n'a pas de prix, et donc ouais, je suis resté dedans, mais j'aurais pu je pense aller ailleurs aussi, hein, mais voilà, c'est comme ça.
Comment on peut faire pour faire évoluer l'image parfois négative qui repose sur les jeunes de quartier? On entend beaucoup de choses qui sont forcément pas justes, mais comment on peut faire changer ces mentalités, donner une image différente? Ça passe par quoi?
Alors la première chose, c'est ça passe par les jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire que les meilleurs experts du vécu des jeunes, c'est les jeunes. Et souvent, on a tendance à pas prendre en considération leur point de vue. Et ça existe depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Si vous regardez les stèles babyloniennes, vous voyez qu'il y a déjà des témoignages où de grands philosophes se sont positionnés comme ça en disant que les générations qui les avaient précédées étaient des mauvaises générations et que ça allait que empirer. Nous, en tout cas, dans le travail qu'on fait dans l'institution, on prend toujours en considération la parole des jeunes. On a fait un rapport d'activité. Il n'y a pas une ligne de ce rapport qui a été écrite sans avoir été alimentée et validée par les jeunes ou par les familles qui sont dans des situations compliquées. Alors, c'est un vrai travail. Il n'est pas toujours simple parce que très vite, on peut basculer dans de la manipulation ou de la participation qui est décorative ou symbolique. Il faut être dans une vraie relation d'équité. Et quand vous le faites, honnêtement, il y a une vraie valeur ajoutée. Les jeunes sont une force de proposition incroyable. Et finalement, si on veut être juste et légitime dans le rôle qui est le mien, pas le choix. Donc déjà, prendre en considération cette parole et en faire une parole agissante. Et malheureusement, beaucoup d'adultes n'ont pas encore les oreilles pour entendre cette parole-là. D'ailleurs, le mot « enfant » vient du latin « infans », qui veut dire « celui qui n'a pas de voix ». Et donc, dans l'inconscient collectif, c'est encore comme ça qu'on le considère, d'où la perception d'avoir des jeunes qui sont plus une menace qu'une force de progrès. Et c'est dommage, et on essaye de lutter contre ça, forcément.
Soleiman Lakhdim, on va marquer une première pause en musique avec votre choix, Kerry James,
ouais,
et un morceau qui s'intitule
« Il n'y a pas de couleur ».
Eh bien, on découvre ça tout de suite, et on vous retrouve ensuite.
C'était un fer qui est James de Milan.
Mais qu'il y a nous, bah je t'enseigne briller.
Y'a pas de couleur pour pleurer.
Mais qu'il y a nous, bah je t'enseigne briller.
Je dis qu'y'a pas de couleur pour aimer.
Qui venait à demain, je vois dans mes goûts. Pour mettre de belles rites lourdes. Mais il y a prié de l'inadvoir.
Message d'amour, même en temps de guerre. Alors que certains disent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui effraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir. Pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire. Pas une couleur pour pleurer, tu le sais. Dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs, et c'est ce qui importe. Y'a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Y'a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. J'suis pas une couleur qui t'immunise contre la douleur, pas une couleur qui te rend supérieur, sache-le. Ma sœur, y'a pas de couleur pour pleurer. toi mon frère, y'a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. Pas de couleur pour sourire. Y'a pas de couleur pour pleurer. Y'a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borné. Pas une couleur attitrée à l'absurdité. Pas une couleur qui prouve ton intelligence. Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance. Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul, foudroyé, rescapé d'un amour manqué. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté. Pas une couleur qui garantisse qu'un honnêteté. Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère. Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Je connais les méfaits du racisme et ce qu'il provoque. Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc. Même en temps de guerre, alors que la paix agonise, je réanime l'amour dont l'absence m'épuise. Y'a pas de couleur pour pleurer. Pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Y'a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'y'a pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Si c'était à refaire, Kerry James 2001. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre.
Deuxième partie de notre émission Plein Feu avec aujourd'hui Soleiman Lagdim. Pourquoi avez-vous choisi de succéder à Claude Lelièvre, délégué général aux droits de l'enfant ?
Alors, il y a eu Claude Lelièvre, puis il y a eu Bernard DeVos, qui a fait deux mandats pendant 15 ans. Mais j'étais arrivé à un moment de ma carrière où j'avais le sentiment d'avoir développé une certaine expertise. Et puis, il y avait certaines lignes qu'il fallait faire bouger, mais qui se jouaient à un autre niveau. Et je trouvais que la fonction de délégué général aux droits de l'enfant me permettait de valoriser cette expertise. Mais il faut toujours rester connecté au terrain. Même si on a une expertise, il faut rester connecté au terrain parce qu'on est très, très, très vite has-been. Et donc, l'idée, c'était de valoriser cette expertise et puis d'agir à un niveau plus méta. Donc, ce n'était pas vraiment le fauteuil que je cherchais. C'était surtout l'objectif d'obtenir des victoires pour ceux qui sont les plus fragilisés de notre société.
Alors, c'est l'occasion de détailler un peu votre fonction. Oui. En quoi consiste-t-elle ?
Alors, si je la résume très, très, très simplement, c'est de rendre le plus effectif possible les droits de l'enfant en Belgique francophone, parce que j'ai une homologue flamande et amie, d'ailleurs, la Kinderrecht Commissaris. J'ai des missions décrétales. Dans ces missions décrétales, il y a d'abord la promotion et l'information des droits. Donc, si on veut qu'ils soient correctement exercés, il faut qu'ils soient connus. Il faut qu'ils soient connus par les enfants, il faut qu'ils soient connus par les adultes, il faut qu'ils soient connus par les partenaires du terrain, les autorités administratives. Donc, ça, c'est un gros, gros travail. Et c'était un de mes premiers enjeux parce que l'institution avait besoin d'un gros effort de modernisation. On était très peu présents sur les réseaux sociaux. Et donc, la première chose, c'était de développer une stratégie numérique parce que les jeunes, ils n'écoutent pas la première, ils ne regardent pas très souvent le JT, ils sont sur leur smartphone et sur les réseaux sociaux. Et donc, il fallait qu'on soit là-dessus et qu'on utilise ces supports comme de vraies caisses de résonance pour faire valoir ces droits de l'enfant. Donc ça, c'est les premières missions. Et puis, on récolte aussi les plaintes des particuliers qui considèrent que leurs droits ont été bafoués. Et on fait aussi, une fois par an, un état des lieux de la situation via un rapport d'activité qu'on présente au Parlement de la communauté française. Et alors, de manière permanente, on a une veille sur l'impact qu'une législation pourrait avoir sur les droits de l'enfant, positivement ou négativement. Et donc ça, c'est un gros, gros travail parce que en Belgique, on a cette fâcheuse tendance à légiférer à tour de bras. Et donc, suivre cette actualité, c'est compliqué.
Et en Belgique, jusqu'à quel âge est-on considéré comme un enfant ?
Alors, c'est du 0 à 18 ans.
Voilà, 18 ans.
Ça, c'est mon périmètre. Maintenant, je vous avoue que moi, j'ai un peu une vision extensive de mon métier parce que pour moi, il y a une tranche d'âge qui est vraiment charnière, c'est le 18, 22, 25 ans. Pourquoi ? Parce que on a souvent, si par exemple vous regardez le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse, les jeunes qui sortent de ce secteur-là à 18 ans, qui ont été placés en institution jusqu'à leurs 18 ans, dans la majorité des cas, ils doivent prendre leur autonomie, donc voler de leurs propres ailes. Et c'est très compliqué pour eux parce qu'ils sont abîmés par leur parcours de vie, parce que ils ont peu de réseau familial, sinon ils n'auraient pas été placés en institution. Ils ont peu de réseau tout court. Et donc, on demande à ces gamins et à ces jeunes filles de voler de leurs propres ailes, là où la tendance est de faire en sorte que les enfants restent de plus en plus longtemps à la maison. Et quand on suit la trajectoire de vie de ces jeunes dans les deux ans qui suivent leur majorité, 25% de ces jeunes finissent SDF. Et en plus, souvent, ces enfants font leurs expériences d'adultes de manière beaucoup plus précoce. Ils deviennent très vite des jeunes parents. Je raconte souvent cette anecdote, mais quand j'étais directeur adjoint du service de protection de la jeunesse à Liège, j'avais 35 ans à l'époque, j'avais des grands-parents qui étaient plus jeunes que moi et qui avaient été placés, leurs enfants avaient été placés, ont placé leurs petits-enfants. Vous voyez donc la reproduction sociale qui est juste terrible et sur laquelle il fallait agir. Donc pour moi, ce public-là, c'est un public qu'il faut absolument, absolument accompagner via le logement, via un accompagnement socio-éducatif de qualité, via aussi un revenu qui leur permet de vivre correctement et dignement pour qu'ils puissent prendre de manière sereine et stable leur autonomie. Donc normalement, c'est 18 ans, mais je me dis qu'en agissant sur ce public-là, on peut aussi agir sur la petite enfance et donc ça me semble assez cohérent.
Et les élections européennes vont permettre aux jeunes de 16 ans de déjà voter.
Oui. Alors, c'est une bonne nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Je vous parlais de participation et je trouve très, très, très bien qu'on implique les jeunes dans un processus démocratique. Maintenant, il y a des dangers qui sont à la porte. Vous savez, souvent, on fait le parallèle entre l'âge du vote et la majorité pénale, par exemple. Donc, il ne faudrait pas qu'on abaisse la majorité pénale à 16 ans parce que les enfants puissent voter. La deuxième chose, c'est que les élections européennes sont un enjeu très important, mais c'est peut-être l'échelon le plus abstrait pour les jeunes. Et on a eu ici une décision de la Cour constitutionnelle qui s'est positionnée en disant c'est obligatoire. Et souvent, moi, ce qui m'a déplu dans la manière dont les choses ont été rapportées, c'était on parlait que de la sanction. Quid s'ils ne votent pas, comment on va les sanctionner vu qu'ils sont mineurs, etc. Au lieu de plutôt les sensibiliser, et puis même d'un point de vue de cohérence, pourquoi c'est obligatoire pour ce niveau de pouvoir et pas pour les autres niveaux de pouvoir. Donc c'est une bonne chose, mais je pense que la citoyenneté est quelque chose aussi qui s'apprivoise et qu'il faut travailler. Et quand on écoute les jeunes encore une fois, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, on y voit très très peu clair. On ne comprend pas la politique belge déjà, donc la politique européenne est encore plus compliquée, mais on ne comprend pas la politique belge et on aimerait que, par exemple, à l'école, il y ait des cours beaucoup plus soutenus là-dessus. C'est quoi la différence entre un parti politique et un autre? C'est quoi la manière dont est organisé notre système institutionnel, etc. Donc, je trouve que deux mois juste avant les élections rendent ça obligatoire, on loupe quelque chose. Mais sur le principe, bien sûr, je suis content. Donc c'est une bonne nouvelle et en même temps, on aurait pu vachement mieux faire, quoi.
Soleiman Lagdim, vous mettez les plus vulnérables au cœur de votre mandat, vous l'avez dit. Comment se présente la pauvreté des enfants aujourd'hui?
Les indicateurs sont pas très bons, en fait. Peu importe la manière dont on le mesure, d'ailleurs. Si on regarde le seuil de pauvreté, qui est une notion économique qu'on utilise souvent, on a une famille sur quatre en Wallonie qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est quand même assez dramatique comme statistique. Si on calcule avec les indicateurs de déprivation matérielle, comme le fait par exemple les organisations internationales, on n'est pas bon non plus. Et je pense...
Mais justement, je vous interromps, oui. Mais quand on parle de seuil de pauvreté, c'est assez abstrait finalement, oui, comme notion. Dans les faits, ça se manifeste comment?
Alors, c'est quoi le seuil de pauvreté? C'est ça que vous me demandez. Le seuil de pauvreté, en fait, vous prenez le revenu médian d'un pays. Donc le revenu médian, ce n'est pas le revenu moyen, hein, parce que le revenu moyen, on peut avoir des très grands salaires et des très bas salaires. Si on fait la moyenne, on peut avoir un très bon revenu moyen, mais avec des grandes disparités. Revenu médian est beaucoup plus correct, et on prend les 60 premiers pourcents de ce revenu médian. Donc le revenu médian, c'est ce qui coupe en deux la distribution des salaires. Et on prend les 60 premiers pourcents des 50%, si vous voulez. Et on considère que toutes les personnes qui vivent en dessous de ces 60% vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, en fait, pour rendre ça peut-être plus concret, aujourd'hui, les aides sociales qui existent, le revenu d'intégration sociale, les allocations de chômage, sont déjà en dessous du seuil de pauvreté. C'est assez interpellant. Donc, la situation, elle est pas bonne et elle a des conséquences très, très importantes sur les droits de l'enfant. Pour moi, c'est la variable qui fait le plus de tort à l'effectivité des droits de l'enfant. Et donc, pour pouvoir agir là-dessus, il faut déjà reconnaître le problème. Il faut déjà reconnaître qu'être pauvre, ce n'est pas une identité en soi, c'est une identité par défaut. Ça veut dire qu'on peut agir sur l'environnement social, on peut changer les institutions, on peut changer les règlements pour faire en sorte que bah, des personnes aient d'autres trajectoires. Et puis, ça veut dire aussi avoir des politiques sociales parfois plus ambitieuses. Je pense notamment à la politique du logement, où il y a toute une série d'études qui démontrent le fait de ne pas avoir accès à un logement décent et le risque de basculer vers la pauvreté qui est très très grand. Et ça avoir aussi une attention particulière sur des groupes particulièrement à risque. Je pense, j'ai parlé des jeunes qui prenaient leur autonomie, mais on pourrait aussi parler des ménages monoparentaux qui ont 4 fois plus de risque de basculer vers la pauvreté. Donc c'est vraiment renforcer l'existant, avoir des politiques sociales plus ambitieuses et avoir une attention particulière sur des publics qui sont vulnérables.
Et les conséquences pour les enfants de cette pauvreté, c'est lié à l'accès à la culture, aux loisirs, à la mobilité?
Alors c'est l'accès. Vous savez, si vous n'avez pas beaucoup de sous en poche, très difficile de profiter d'une offre culturelle, du sport, d'une activité, d'un loisir, mais pas que ça. C'est même de l'offre scolaire, c'est participer à un voyage scolaire, c'est du milieu d'accueil. Très compliqué d'avoir accès à du milieu d'accueil. La question de la mobilité, par exemple, aujourd'hui, on a certaines familles migrantes avec une situation administrative compliquée qui dépendent ni de FEDASIN ni d'un CPAS et qui payent le tarif plein pour pouvoir prendre le transport en commun. Alors que tous les jeunes en Belgique ont un tarif préférentiel et un abonnement préférentiel. Donc, effectivement, quand on n'a pas de sous en poche, bah, c'est très compliqué de faire valoir ses droits.
Soleymane Lagdim, vous avez été président du jury Viva for Life. Hein. Sans des initiatives privées, le secteur public n'a plus les capacités de remplir son rôle?
Alors, je ne le pense pas. Aujourd'hui, malheureusement, j'aimerais avoir un service public qui soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus sur la balle. Ce n'est pas simple, et en Belgique, encore moins. Parce que ben, y a un morcellement institutionnel très important, il y a parfois des pilotages, il y a un manque de cohérence dans le pilotage des politiques publiques. Parfois, on a souvent eu dans l'histoire récente politique un ministre de la petite enfance, un ministre de l'aide à la jeunesse, un ministre de la jeunesse avec des couleurs politiques différentes, avec des visions différentes. Et donc, c'est très difficile alors que tous ces secteurs-là sont intimement liés les uns aux autres et qu'il faudrait beaucoup plus de cohérence. Et ça, par exemple, dans le nord du pays, ils sont beaucoup plus cohérents sur la manière de piloter les politiques publiques. Donc, le service public aujourd'hui a du mal, mais il peut vachement mieux faire. Et c'est vrai que l'associatif, heureusement que l'associatif est là, historiquement, bah, je veux dire, l'aide sociale en Belgique, et c'est un choix qui a été fait il y a déjà très longtemps, c'est basé sur la charité chrétienne, donc on a une aide sociale qui a été privatisée depuis le début et qui, heureusement, est encore là parce qu'aujourd'hui, ce serait catastrophique s'il n'y avait pas des bénévoles ou des institutions, des ASBL privées qui viendraient. Mais la plupart d'entre elles sont quand même financées. Si je prends par exemple l'aide à la jeunesse, la masse salariale et les frais de fonctionnement sont financés à 100% par les pouvoirs publics. Donc, ils sont une forme d'extension du service public.
En décembre 2023, avec Viva for Life, ce sont 8,5 millions d'euros qui ont été récoltés, mais ce sont aussi 185 organisations qui ont reçu une aide. Est-ce que c'est important pour vous, en tant que délégué général aux droits de l'enfant, de participer à la sélection des organisations qui en bénéficient?
Je suis déjà honoré, parce que ça veut dire que symboliquement, on considère que la fonction que je représente est importante. Ça a été une très belle expérience pour moi de faire le suivi et de faire parfois des arbitrages aussi de certains dossiers. Il y a un professionnalisme, donc ça fait déjà plus de 10 ans que ça fonctionne. Il y a un vrai professionnalisme dans la manière de sélectionner, d'accompagner et finalement de suivre aussi les différents projets. Au fond de moi, ben, je me dis que c'est un super laboratoire pour tenter des expériences innovantes qui permettent de donner des moyens suffisants pour montrer que c'est possible. Mais là où il manque encore un chaînon, c'est de justement pérenniser ce dispositif. Et à un moment donné, pour moi, Viva for Life démontre que ça fonctionne. Mais à un moment donné, c'est aux autorités publiques de prendre le relais pour, quand il y a des recettes qui fonctionnent, l'autorité publique devrait. Donc pour moi, c'est la grande force de Viva for Life, c'est de pouvoir impulser toute une série de projets innovants ou de renforcer de l'existant et démontrer qu'en renforçant, on est beaucoup plus efficace.
Où en est-on aujourd'hui sur l'accompagnement des MENA, les mineurs étrangers non accompagnés justement?
Les MENA, il y a plusieurs types de MENA. Il y a des MENA qui sont pris en charge par le circuit traditionnel Et donc là, généralement, c'est l'Office des étrangers, le service des tutelles et puis fait d'asile qui les prennent. Je dois dire que dans la majorité des cas, l'intégration est plutôt bien réussie et il y a de belles personnes qui travaillent au quotidien pour essayer d'aider ces jeunes. Alors il y a des manquements, il manque de tuteurs, on manque énormément de tuteurs et c'est très important parce que le tuteur est le représentant légal, c'est lui qui active les droits du jeune qui n'a pas de parents ici. Donc la situation est... On peut vachement l'améliorer, mais là encore, on est tributaire de pilotages différents. Le service des tutelles dépend du ministre de la Justice. L'Office des étrangers, c'est la secrétaire d'État à l'asile et migration. Et donc, parfois, on a des pilotages un petit peu qui se court-circuitent entre eux. Et puis, il y a des MENA qui sont sur l'espace public, c'est-à-dire qui ne sont pas enregistrés par l'Office des étrangers, parce que soit leur objectif n'est pas de rester en Belgique, soit d'aller en Angleterre, en Hollande, soit ils savent que la protection internationale ne va pas leur être octroyée. Et donc là, on a un public particulièrement vulnérable. Vous les trouvez aux abords des gares, souvent avec de gros problèmes d'assuétude. Et quand vous allez à leur rencontre, ce que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises, moi j'ai vu par exemple un enfant de 9 ans dormir à la gare du Midi, à Bruxelles. J'ai vu une jeune fille de 13 ans qui se prostituait dans une caticabine, les cabines de chantier, pour pouvoir manger. Et donc ça, c'est profondément inadmissible. Vous savez, quand on est le délégué général aux droits de l'enfant, on est le délégué de tous les enfants, peu importe leur origine, peu importe leur situation administrative, peu importe leur genre, peu importe leur orientation sexuelle. Je veux dire, ça fait partie du job. Et ce qui est dommage, c'est que historiquement en Belgique, on a eu plutôt une législation progressiste, notamment avec une loi sur les MENA, qui date du début de 2002, je pense, de mémoire, et qui avait une attention par rapport à ce public-là, de le considérer différemment d'un public adulte. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu l'histoire avec Yagine Fodé à l'époque, qui étaient ces deux jeunes Guinéens qui étaient venus par un avion de la Sabena et qui malheureusement sont morts d'hypothermie et qui avaient écrit un courrier qui est très 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 poignant. Et à l'époque, le rapatriement des corps avait été payé par l'État belge. Il y a une délégation belge qui avait assisté aux obsèques en Guinée. Et il y avait un vrai élan et une vraie humanité à travers ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur l'espace public, aux yeux de tous. Et moi, ce que je constate, malheureusement, c'est l'indifférence qu'il y a. Et ce public est particulièrement vulnérable. Déjà, ce sont des mineurs. Donc, en raison même de leur minorité, ils sont vulnérables. Ils sont étrangers, donc généralement... Ils n'ont pas les codes, ils ne maîtrisent pas la langue et ils sont non accompagnés. Donc, ils sont vraiment vulnérables et ils sont exploités soit dans la sphère du travail, soit dans la sphère sexuelle, soit par, malheureusement, des réseaux criminels qui les utilisent notamment dans le trafic de drogue.
Comment est-ce que vous expliquez cette indifférence ?
Je crois qu'on est un peu des êtres de peur. Et plus il y a des personnes qui sont différentes de nous, plus on a tendance à vouloir malheureusement les rejeter. Aujourd'hui, il y a un contexte, l'Europe se cherche, vous entendez dans le débat public, on parle beaucoup de grands remplacements, il y a toute une rhétorique, tout un fantasme qui est là derrière. Et puis, ces gamins, ils survivent. Donc pour survivre, malheureusement, ils doivent parfois commettre des faits. Je discutais avec l'un d'entre eux, il me disait, vous savez, moi, monsieur, parfois, pendant 3 jours, je ne mange pas. Il me dit, c'est pas que je saute un repas. Il dit, j'ai pas bouffé pendant 3 jours. Et il dit, toute la journée, je vole. Et alors, il me dit, des braves gens. Il me dit, je vole des braves gens, mais il me dit, j'ai pas le choix de voler des braves gens. Et donc, il consomme souvent, ça sniffe du white spirit, c'est des produits très, très bas de gamme ou de la colle beaucoup. Et donc, il consomme pour oublier le sentiment d'avoir faim et pour oublier l'état dans lequel ils sont. Et donc, forcément, si je prends par exemple le cas de la gare du Midi. La gare du Midi, si vous regardez tous les quartiers qui entourent la gare du Midi, c'est des quartiers avec une grande densité de population issue de l'immigration. Et au début, il y avait une forme de solidarité, de charité musulmane qui s'était organisée pour aider ces jeunes. Sauf que ces jeunes, parfois commettent des délits. Et où est-ce qu'ils commettent leurs délits? Ils les commettent dans les quartiers avoisinants, donc ils font des vols avec effraction, ils vendent de la drogue dans les quartiers. Parfois, il y a déjà des réseaux de drogue qui sont bien structurés et ils viennent déstructurer ces réseaux de drogue. Et donc, ce filet de sécurité qui était encore là, il existe toujours, mais il est en train de s'effilocher au fur et à mesure. Et donc, il y a une perception très négative de ces jeunes, malheureusement, aujourd'hui.
Sur le site du délégué général aux droits de l'enfant, hein, vous accueillez la page « Rien à faire, rien à perdre », qui est consacrée aux récits de vie qui traitent du radicalisme violent. Oui. De quoi s'agit-il exactement ?
Ça, c'était une initiative de mon prédécesseur, parce qu'effectivement, vous le savez, hein, il y a eu malheureusement, on a été touché par, par bah, des affaires d'attentats et de terrorisme et de radicalisme musulman. Je suis toujours très prudent, moi, avec toute cette sémantique, parce que souvent, on parle de fondamentaliste, on parle d'intégriste. En fait, un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui revient au fondement. Un intégriste, c'est quelqu'un qui a une vision intégrale des choses. En réalité, ce sont souvent des réductionnistes. C'est-à-dire qu'ils réduisent et ils ont une vision très, très, très fermée de ce qu'est la religion. Et donc, l'idée, bah, c'était d'apporter notre pierre à l'édifice aussi là-dedans, de comprendre le pourquoi des gamins basculaient dans ce type d'idéologie et essayer de déconstruire ça au maximum, bien entendu.
Je propose qu'on marque une petite pause pour se détendre, hein, après des sujets qui étaient quand même assez graves là sur les dernières questions. On va écouter Cool and the Gang, un morceau voilà, qui donne envie de bouger et qui vous met de bonne humeur.
Ah, qui me met de bonne humeur le matin, ouais, super.
Troisième partie de cette émission Plein Feu, aujourd'hui avec Soleymane Lagdim. Alors parlons un peu de santé, hein. Vous aimiez ce morceau de musique qui faisait bouger, et pour la santé des enfants, vous prenez plus de sport, la lutte contre l'obésité, c'est devenu un phénomène de société.
Oui, mais la santé de manière générale, aujourd'hui, et la santé mentale. On n'est malheureusement pas loin d'une épidémie de santé mentale. Il y a un effet Covid, un effet retard Covid qui touche de plein fouet, qui a été un coup d'accélérateur sur des choses qui préexistaient déjà.
Et qui se manifeste comment alors ?
Alors aujourd'hui, si vous regardez juste les chiffres, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête Cienzano, la dernière enquête, on a une augmentation des antidépresseurs chez les 12-18 ans de 60%, 60% d'augmentation. On a les décompensations, le stress, l'angoisse, enfin tout ce qui touche de près ou de loin la santé mentale est en explosion. En explosion, on a un enfant sur 10 qui a des idées noires et qui pense au suicide. Donc notre jeunesse va très mal en fait. Elle va très 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 mal. Et elle va mal notamment, pas que, mais elle va mal parce que les inégalités ont augmenté, parce que le contexte extérieur est profondément anxiogène. Et vous savez, le mal-être, bah, son pendant, c'est le bien-être. Et donc il faut mettre du bien-être partout où on peut en mettre. C'est-à-dire à l'école, c'est-à-dire sur l'espace public, dans la sphère du travail, parce que les adultes, malheureusement, ne sont pas épargnés. Il y a aussi de gros soucis à ce niveau-là, mais je suis moins compétent pour en parler. Et ce qu'il faut faire, donc, c'est plus de politiques préventives, c'est renforcer l'existant. Je pense notamment aux services de santé mentale, dont les listes d'attente sont incroyablement longues. Et donc, c'est les seuls services, enfin, parmi les seuls services, il y a les psychologues de première ligne également, mais qui offrent un service quasi gratuit pour des gens qui, parfois, en sont très éloignés. Sinon, il faut aller vers le privé, vers des thérapeutes privés. Et donc là, ça a un certain coût. Et donc, il faut désengorger ces services-là, mais il faut aussi avoir une politique beaucoup plus intensive au niveau de l'ambulatoire, au niveau de la crise, au niveau de l'urgence. Donc aujourd'hui, toute la chaîne est grippée, mais il faut surtout éviter le basculement vers cette chaîne-là.
Et le post-confinement, vous l'aviez senti ça...
Oui, hein. Oui, mais c'est-à-dire que tous les indicateurs étaient quasi au rouge. Si vous regardez, par exemple, au niveau des maltraitances intrafamiliales, la promiscuité a eu un impact au niveau du nombre de divorces, au niveau du décrochage scolaire, au niveau de la santé mentale. Donc, effectivement, le Covid a montré à quel point on était vulnérable en tant qu'espèce. Et c'est la première fois dans l'histoire récente que ça nous arrive. À côté de ça, bah, vous rajoutez le défi écologique qui est probablement ce qui nous menace le plus. C'était Jacques Attali qui parlait d'une apocalypse écologique. Bah, on n'en est malheureusement pas loin sans vouloir être catastrophiste, même si les choses sont encore réversibles. On a des conflits armés aux portes de l'Europe avec des risques de généralisation. On a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a un impact considérable sur la manière de pouvoir se projeter dans un métier. On sait que dans les 30 ans qui arrivent, bah, la plupart des métiers qui existent seront en voie de disparition. Donc pour les jeunes, c'est pas simple de pouvoir se projeter dans ce monde-là. Monde auquel, moi, il y a 25-30 ans, bah, le défi écologique, on savait qu'il était là, mais il nous impactait pas de la même manière. Enfin, je veux dire, on savait déjà plus ou moins ce qu'on voulait faire dans la vie, etc. Donc il y a un contexte extérieur, mais il y a aussi des politiques de bien-être qu'il faut mener absolument.
Vous parlez de défis pour les parents. Le défi, souvent, c'est le rapport de nos enfants avec les écrans. C'est un défi pour l'ensemble de notre société. Quelles mesures peuvent être ou doivent être appliquées pour protéger les enfants d'une surconsommation ?
Alors ça, c'est toujours des questions très compliquées parce que, vous savez, c'est comme souvent, les principaux agents socialisateurs, ce sont les parents. Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, qui doivent se passer déjà à la maison. Donc la première chose, c'est une éducation aux médias. Parce que, vous savez, avec le numérique, souvent, les enfants sont les experts et les parents beaucoup moins. Donc généralement, les enfants maîtrisent mieux l'outil que les parents. Donc c'est très difficile de contrôler l'activité. Voilà, alors il y a des projets de loi hein, de mettre un contrôle parental sur certains, gratuits pour certains dispositifs. Mais c'est sûr, ça regorge d'opportunités, le monde numérique, et en même temps, ça a plein d'effets pervers. On connaît les phénomènes de grooming, par exemple, où on a des prédateurs qui se font passer pour des enfants et qui essayent d'obtenir des photos d'enfants nus ou parfois même qui donnent rendez-vous à l'extérieur. Et je pense qu'un des gros, gros enjeux, c'est une éducation aux médias. Et ça passe aussi par les VRAS, hein, donc les modules, les animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Parce que, vous savez, l'exposition d'un enfant à la pornographie, aujourd'hui, c'est aux alentours de 10 ans. Donc aujourd'hui, quasi tous les enfants de 10 ans ont déjà vu des photos à caractère pornographique. Donc vous imaginez bien tout l'impact que ça a sur leur psychisme si ça, ce n'est pas accompagné. Et donc dans certaines familles, on le fait. Puis il y a d'autres familles où on ne le fait pas. Et donc le mieux, c'est de le faire pour tout le monde.
Mais alors, vous citez les VRAS. Est-ce qu'on peut légitimement penser que deux séances qui seront données sur l'ensemble des secondaires, ça peut protéger nos enfants des fameux prédateurs sexuels, par exemple?
Non, c'est largement insuffisant. Hein. Je donnais ça comme exemple. Effectivement, en réalité, c'est quelque chose qu'il faut faire quasi de manière permanente et accompagner. Ça fait partie de notre quotidien. Et ça, parfois, aussi des conséquences dans le relationnel. Je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ça qu'il faut toujours être connecté au terrain. J'ai rencontré un service qui travaille dans la périnatalité, qui accompagne des parents en situation de vulnérabilité, qui les accompagne pendant la grossesse et puis après. Et il me disait, ça fait 2-3 ans, par exemple, qu'on a une augmentation qu'on n'arrive pas à expliquer du nombre d'enfants autistes. Et donc, c'est assez surprenant parce que ces personnes travaillent depuis 25 ans et accompagnent le même public depuis 25 ans. Et ça fait 2-3 ans qu'ils ont ça. Et je l'entends à plusieurs endroits différents. Et une des explications, alors ce sont des hypothèses, donc je n'affirme rien ici, mais une des hypothèses, c'est de dire que les parents sont tellement connectés sur leurs écrans qu'ils investissent beaucoup moins la relation avec l'enfant. Et on sait à quel point ces 1000 premiers jours, en termes d'interaction pour les connexions neuronales, etc., et pour le développement cognitif des enfants, est fondamental. Et donc, vous voyez, l'écran, il dépasse largement juste les enfants. Et donc, c'est une vraie question de société.
Intéressant.
Autre sujet difficile, la maltraitance. La prévention et l'accompagnement sont-ils efficaces dans notre pays?
Alors, la maltraitance, c'est un sujet très délicat. Alors forcément, l'accompagnement, le suivi est fondamental. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui ont subi des violences physiques très importantes ou sexuelles très importantes, souvent en intrafamilial. Dans 95% des cas, c'est malheureusement soit la cellule familiale, la famille élargie, hein, un oncle, une tante, un grand-parent, souvent des hommes qui abusent. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Alors nous, on a fait un gros travail au niveau de l'institution là-dessus. On a travaillé avec une chercheuse de l'UC Louvain qui s'appelle Isabelle Seret et on a écrit un bouquin qui s'appelle « Faire taire le silence », qui est un recueil de différents témoignages et je remercie les personnes qui ont participé. Donc on a été recueillir le témoignage de personnes adultes aujourd'hui, mais qui ont vécu ces situations-là en tant qu'enfants. Et donc entendre leur récit, c'est quelque chose de très précieux parce que avec une précision de chirurgien, ils montrent toutes les failles qu'il y a. Parce que vous savez, pour dénoncer des faits de violence physique ou des faits de violence sexuelle, c'est très compliqué pour des enfants de le faire. Parce que très vite, les enfants se rendent compte qu'ils vont mettre à mal la dynamique familiale. Souvent, le papa abuseur, par exemple, n'est pas juste un papa abuseur, il a été peut-être aussi un bon papa dans d'autres sphères de la vie, mais malheureusement, il est papa abuseur. Et donc, les enfants ont beaucoup de mal à dénoncer ça. Et quand ils le font, malheureusement, les adultes n'écoutent pas souvent ce qu'ils disent. Et donc, ça se retourne souvent contre eux. Alors, parfois, c'est objectivé de manière médicale. Et on a toute une série de services qui, et chapeau à eux, qui font un travail de dingue et de reconstruction avec ces enfants et qui les accompagnent. Je pense notamment aux équipes SOS enfants. Mais voilà, ils ont fait une carte blanche. Ils sont en grande souffrance en tant qu'équipe parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel et que le nombre de cas est quand même assez important. Donc oui, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui subissent des maltraitances importantes. Je prends le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse avec des choses qui sont absurdes. On a 4600 jeunes aujourd'hui pour lesquels on a objectivé une situation de maltraitance ou de négligence très très importante, pour lequel il faudrait un éloignement du milieu familial ou en tout cas un accompagnement très intensif dans le milieu familial et qui sont en attente d'une prise en charge. 4600. Et sur les 4600, vous savez quoi? Il y a même des enfants qu'on place parfois en hôpital pour raisons non médicales. Et je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que l'hôpital, ce n'est pas un lieu de vie pour les enfants. Donc la situation, elle est quand même assez dramatique. Et tout à l'heure, je parlais de la dispersion des moyens. Mais il y a certains secteurs qu'il faut absolument refinancer parce que là, on parle presque du coût de la vie d'une personne. C'est de ça dont on parle en réalité. Et on n'en fait pas assez, malheureusement.
Soleiman Lakhdim, aujourd'hui, vos meilleurs relais sur le terrain, ce sont les associations, les maisons de quartier, maisons de jeunes, les enseignants, les éducateurs, les soignants?
Alors je vais vous dire, pour moi, il y a plusieurs catégories. Il y a l'associatif de manière générale, c'est un acteur essentiel dans le maillage institutionnel. Il y a les jeunes eux-mêmes, qui sont juste extraordinaires et qui vont ramener des propositions ou des pistes de solutions qui sont assez incroyables. Vous parliez des MENA tout à l'heure, mais quand vous allez entendre les MENA et quand ils vous disent pourquoi ils ne sont pas pris en charge et pourquoi ils n'ont pas envie d'aller là où il y a une aide qui existe, bah, vous êtes meilleur pour trouver les bonnes réponses. Mmh. Alors, il y a les autorités administratives. On sous-estime souvent la marge de manœuvre des administrations. Elles en ont pas mal. Et donc, ce sont de vrais acteurs. Et puis, le politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le politique, si on veut un changement structurel, on a besoin du politique. Donc, pour moi, les politiciens et les politiciennes sont des acteurs privilégiés dans le combat, sont des vrais acteurs de changement. Et donc, ils sont tout aussi importants que l'associatif et les jeunes.
En début d'entretien, vous évoquiez hein, votre rôle à l'étranger, ou en tout cas oui. vos contacts avec l'étranger. Est-ce que vous suivez l'évolution des droits de l'enfant dans d'autres pays européens ?
Oui, oui on essaye de le faire. Donc moi, je fais partie de deux réseaux à l'étranger. Donc il y a un réseau qui est un réseau des pays du Conseil de l'Europe qui s'appelle ENOC, E-N-O-C. J'en suis le trésorier d'ailleurs. Et la présidente est mon homologue flamande. Donc c'est un pilotage presque... où la Belgique joue son rôle, en tout cas. C'est un relais précieux. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs, effectivement, les bonnes pratiques. Lorsqu'on discute avec mon homologue estonien ou mon homologue finlandaise, forcément, on voit qu'il y a la gratuité des cantines, on voit comment ils ont mis des cantines scolaires, on voit comment ils ont mis ça en place. Donc, en termes de benchmarking, c'est très intéressant. Et c'est aussi intéressant, je vous avais dit tout à l'heure qu'on réceptionnait toute une série de plaintes au niveau de mon institution, et notamment parfois des questions de rapt parentaux, des questions d'adoption. Et donc là, avoir des personnes relais dans les autres pays, bah, c'est très précieux. Et sur la question migratoire, par exemple, mon homologue ukrainienne, avec ce qui s'est passé en Ukraine et qui continue à se passer, bah, avoir des contacts en direct en Ukraine, c'est important. Donc ça, c'est le premier réseau. Puis il y a un deuxième réseau qui s'appelle l'AOMF, qui est le réseau des médiateurs francophones. Donc là, on est plus dans l'espace de la francophonie et plus juste sur la mission de récolte des plaintes et de médiation institutionnelle qui est la mienne. Et donc là aussi, c'est aussi intéressant, même si dans ce deuxième réseau, c'est plus pour partager, nous, notre expérience, parce qu'on est assez progressiste et historiquement, on a toujours été en avance un petit peu en Belgique. Il faut en être assez fier sur ces questions-là. Et donc, on aide aussi toute une série de pays du Sud à s'inspirer de nos expériences et à partager un maximum. Quoi.
Vous évoquiez votre homologue néerlandophone, hein, que vous avez cité déjà oui. à deux reprises. Oui. Est-ce que c'est le type de démarche ou de mise en pratique sont comparables ?
Oui, hein, oui, oui. Donc, en fait, on a un dialogue, on s'appelle assez souvent, allez, quasi toutes les deux semaines, on a un contact, soit téléphonique, soit parfois on se rencontre pour échanger, parce que en Belgique, il y a aussi l'échelon fédéral. Et donc quand on parle des questions migratoires, quand on parle des questions de justice, quand on parle des violences policières, quand on parle de politique sociale, de santé par exemple, tout ça se joue à l'échelon fédéral et c'est mieux d'être aligné. Et je dois reconnaître que depuis le début, donc là ça fait 14 mois que je suis en fonction, j'ai pas eu un seul point de divergence avec elle. Au contraire, je vois qu'ensemble, on est beaucoup plus fort pour faire bouger les lignes. Donc, c'est une vraie, vraie alliée. Et c'est une amie, d'ailleurs. Donc,
et on peut dire que les jeunes en région flamande ou en région wallonne ou bruxelloise ne sont pas traités différemment ?
Alors, c'est un peu différent parce qu'il y a plus de rationalisation au niveau des compétences politiques. Socio-économiquement, ils sont moins impactés par la question de la pauvreté que Bruxelles, en Flandre, qu'à Bruxelles ou en région wallonne. Maintenant, au niveau des problématiques, que ce soit les grosses problématiques dans les pôles urbains, une ville comme Anvers, par exemple, a exactement les mêmes soucis qu'une ville comme Bruxelles ou Liège, Charleroi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très similaires et puis il y a des disparités qui sont plutôt économiques.
Et vous qui êtes délégué général à la fois pour Bruxelles et pour la Wallonie, est-ce qu'il y a des différences tangibles aussi en fonction des régions ?
Oui, Bruxelles concentre beaucoup de vulnérabilités. Alors on a un quart des jeunes qui sont à Bruxelles, trois quarts qui sont en région wallonne, mais Bruxelles sociologiquement, démographiquement, a ses caractéristiques qu'on ne retrouve pas spécialement ailleurs. Et donc oui, c'est un peu différent, plus touché par la question de la précarité aussi. Hein, quand on va à Bruxelles, par exemple à Bruxelles, dans les écoles bruxelloises, un enfant sur quatre n'a pas de tartine à l'école, ce qui n'est pas le cas en région wallonne, on n'est pas dans cet ordre de grandeur. Donc oui, il y a des différences de territoire.
Soleiman Lagdim, on arrive malheureusement déjà au terme de cette émission, c'est passé très vite.
C'est vrai, c'est vite passé.
Si on veut suivre vos actions, vos activités, on se rend sur...
Alors, on a pour l'instant développé une vraie stratégie au niveau numérique, donc on est présent sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube aussi, où on donne la parole aux jeunes et où les jeunes nous donnent leur avis sur toute une série de thématiques. Et donc là, on est aussi en train de refaire notre site internet, parce que le site actuel est pas, le contenu est très intéressant, malheureusement il n'est pas très ergonomique et il ne donne pas spécialement envie d'aller chercher des infos dessus. Donc il y a une vraie stratégie numérique qui est en train d'être faite. Et donc pour l'instant le site c'est dgde.be, délégué général aux droits de l'enfant, et ou sinon on est sur X, sur toutes les plateformes traditionnelles, et on essaye de donner un maximum d'écho à notre action à travers les médias numériques, mais aussi les médias traditionnels, parce qu'on a la chance d'avoir une grande exposition médiatique, et c'est une vraie force.
Eh bien, c'était un grand plaisir de vous recevoir, en tout cas, pendant cette heure d'émission plein feu. On Merci. Vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite de vos actions et vos activités. Merci beaucoup, Angélique Tazio, d'avoir préparé cette émission, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine plein feu. Au revoir.
Au revoir.